Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à l'invité de RTL Matin en appelant le 3210.
8h21, Muriel Pénicaud nous a rejoint dans ce studio. Merci beaucoup Madame la Ministre. Et vous allez dialoguer maintenant au 3210 avec les auditeurs d'RTL. Et la première personne à vous interroger est Franck qui nous appelle du département de la Moselle, très exactement de Metz. Bonjour Franck.
Bonjour Monsieur Calvi.
Merci
bonjour,
d'écouter RTL.
La bonjour Monsieur.
Je vous laisse dialoguer avec la Ministre.
Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de bâtiments et j'ai fait beaucoup d'intérim. Et ma question est la suivante. La différence entre l'intérimaire qui est précaire et votre CDI, puisque pour moi ça, il y aura une date de fin, donc aucun avenir professionnel ou même au niveau de la vie normale. Je vois pas le rapport, quoi. Pour moi, ça reste un contrat précaire, votre CDI.
Alors voilà, c'est ce fameux CDI dont on parle, notamment ce qu'on appelle les contrats de chantier, précisément. Qu'avez-vous à répondre à Franck Muriel Pénicaud?
D'abord, bonjour monsieur, je suis ravie que ce soit quelqu'un de Metz, parce que j'ai habité Metz, où j'ai dirigé la mission locale de Metz à sa création, donc ça me fait plaisir. Alors d'abord, on est tous d'accord, le but et la règle et l'objectif, c'est quand même le CDI. La première précarité, c'est le chômage. La deuxième précarité, c'est les contrats précaires permanents. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de moins de précarité, plus d'emplois à durée déterminée est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les contrats de chantier? Un intérim, c'est très court. Mmh. Les contrats de durée déterminée aussi. Donc, ce qui se passe, c'est si vous obtenez, une entreprise obtient un grand chantier pour construire, je ne sais pas quoi, le Louvre à Abu Dhabi. Mmh. Elle emmène des équipes. Soit ils sont en précarité, ce qui est très mauvais, parce que ça veut dire que des équipes vont se succéder avec des gens qui n'auront pas un statut stable. Soit ils sont en contrat à durée indéterminée de chantier, ce qui veut dire qu'ils ont tous les avantages de contrat à durée indéterminée, mais au cas où il n'y ait pas un deuxième chantier derrière, finalement, les clauses sont déjà prévues, ce qui les sécurise, parce que c'est plus protecteur, si vous voulez, que deux CDD successifs ou l'intérim. Donc, évidemment, dans la plupart des entreprises, le but, c'est d'aller de chantier en chantier et c'est de continuer. Mais au cas où cette entreprise n'est plus de chantier, ça, prévoir à l'avance, c'est quand même plus sécurisant.
Je voudrais qu'on se comprenne bien vis-à-vis de Franck. Vous nous dites, ces CDI ne sont pas des faux CDD, on s'est bien compris. D'une certaine façon, ils ont tous les avantages du CDI en termes de protection, si ce n'est qu'ils peuvent avoir un terme en tant que tel, qui est le chantier lui-même.
Alors, un contrat à durée indéterminée peut avoir...
Le projet lui-même.
Si l'entreprise n'a plus de marché... Elle a aussi, elle est amenée à licencier sur le plan économique. Donc, les contrats indéterminés, c'est le but, mais c'est pas une garantie à vie. Pour autant, il faut qu'il y ait des marchés. Donc, simplement là, c'est plus sécurisant parce qu'on dit le but, c'est de garder un CDI. Donc, s'il y a un autre chantier, le salarié va aller sur l'autre chantier. Et au cas où il y en a pas, au lieu qu'il entame une procédure de licence économique lourde et pénible, y compris pour le salarié, il connaît déjà ses conditions. Et en attendant, si vous voulez quelque chose qui s'appelle un CDI, vous pouvez trouver un logement, vous pouvez trouver... Enfin, il y a un nombre de choses qui sont difficiles pour les gens qui sont en CDD en intérimaire.
Mais justement, pour le logement, pour les prêts, enfin, je veux dire...
C'est un contrat à durée indéterminée. Donc, juridiquement, c'est pris comme un contrat à durée indéterminée.
Donc, les banques ne pourraient pas les refuser éventuellement pour un prêt.
Exactement.
Merci, Franck, de nous avoir appelé. Avant de donner la parole à Christian, qui est chef d'entreprise qui nous appelle de Dieppe en Seine-Maritime, je le préviens, il y a une question d'ordre général qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi est-il à ce point nécessaire de réformer le Code du Travail, Muriel Pénicaud, en quelques mots s'il vous plaît.
Alors en quelques mots, le Code du Travail a appuyé sur des socles de valeurs qui ont 100 ans en France, qui sont très solides, il faut les garder, c'est nos valeurs d'égalité, de liberté. Mais le monde a changé, la mondialisation... Les nouvelles technologies qui vont révolutionner 50% des métiers dans les 10 ans qui viennent. Les aspirations des salariés qui veulent aussi plus de liberté, de choisir son métier, de faire de la formation pour se promouvoir, de travailler en télétravail. Tout ça a changé. Donc le Code du Travail, c'est par exemple le télétravail. Le Code du Travail, il n'avait pas prévu Internet, c'est normal. Donc maintenant, il doit intégrer ces éléments nouveaux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on amène plus de liberté aux entreprises et aux salariés, plus de sécurité aux salariés et aux entreprises.
Vous nous dites, le monde a changé, le Code du Travail doit vivre avec lui.
Exactement.
On va donner la parole à Christian qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Christian, la ministre vous écoute.
Oui, bonjour Madame Pénicaud, bonjour Monsieur Calvi. Oui, alors on parle depuis que je travaille en fait. On a une vingtaine de salariés, nous, hein, d'une certification à tous les niveaux. Bon, elle n'arrive pas. Tous les mois, on établit une vingtaine de feuilles de paye avec 41 lignes, entre 41 et 50 lignes. On aimerait bien avoir une simplification. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce domaine? Simplification d'ailleurs, pas que dans ce domaine, dans beaucoup d'autres domaines. Et ce qui serait bien aussi, c'est d'aller voir d'autres personnes que la CGPME ou la CGT, enfin les syndicats traditionnels, d'aller voir les gens qui sont sur le terrain au quotidien. Ça vous donnerait une idée de ce qui se passe tous les jours en France.
Christian, la ministre vous répond en particulier sur la première partie de votre question, la simplification de la fiche de paie. Donc vous avez entendu autant de fiches de paie quasiment que d'employés dans cette entreprise.
Alors, il y a eu un début de simplification dans le passé. Il y a un peu moins de lignes, c'est passé en une page. Avant, oui. C'était deux pages. Voilà,
et apparemment, on ne peut pas s'en satisfaire.
Voilà. Et donc, ce n'est pas dans la priorité immédiate, mais c'est un sujet qu'on regardera, puisque je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. Après, il y a un deuxième sujet qui est très important. Vous travaillez dans une TPE, et moi je suis d'accord avec vous. D'abord, 55% des salariés du secteur privé, ils travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Donc moi j'ai une obsession qui est la même que la vôtre, monsieur, c'est que ce qu'on est en train de faire, ça marche dans les PME. Parce que c'est là où on crée le plus d'emplois, et c'est là où il y a la moitié des salariés. Et donc c'est très important, et j'ai eu la chance, moi, de vivre en entreprise. Les trois dernières années, d'abord, elle était organisée en plein d'unités qui étaient un peu comme des grosses PME, mais surtout, depuis trois ans, j'ai travaillé pour aider les entreprises, les PME françaises à exporter. Mmh. On aidait 10 000 entreprises par an, donc j'en ai vu plein, et je suis d'accord avec vous, mais je veux rester connectée avec le terrain. J'étais lundi à Cholet, dans une entreprise, c'est AIB, où il y a un super dialogue social, qu'on fait des choses sur la qualité de vie au travail, sur l'égalité de femmes, de terrain, vu par l'employeur, les syndicats, les salariés. Moi, je crois beaucoup à ça. Je me nourris aussi de ces expériences-là, donc je vais continuer.
Merci Christian de votre appel, et bonjour à David, qui nous appelle, lui, du territoire de Belfort.
Oui, bonjour Madame Pénicaud, Monsieur Calvi.
Bonjour Monsieur.
Donc ma question, Madame la Ministre du Travail, ne pensez-vous pas qu'il existe d'autres solutions pour créer des emplois que de remettre en cause le code du travail à nouveau, les charges, la fiscalité des entreprises, les lourdeurs administratives? Les entreprises, surtout les grandes, ont déjà des moyens de se séparer de salariés via la route conventionnelle et le licenciement. Que pensez-vous de ces points-là?
Merci de vos questions, parce que je suis d'accord avec vous. Le code du travail, c'est pas un outil magique qui crée ou l'emploi est certainement pas tout seul. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous on veut faire un ensemble de réformes qui l'ensemble va être porteur d'emploi. C'est ce que j'appelle un Rubik's Cube avec six côtés qui sont tous liés. Il y a le code du travail. Bon, on va faire une réforme de l'apprentissage pour booster l'apprentissage. C'est une solution formidable à tous les niveaux. Sur la formation professionnelle, pour que vraiment on puisse accompagner les grandes mutations technologiques et que 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi, les salariés puissent finalement être acteurs demain, parce qu'ils auront les bonnes compétences et les bonnes formations, et pas subir les prochaines vagues de transformation technologique. Une réforme de l'assurance chômage pour l'élargir aussi aux indépendants, aux micro-entrepreneurs, et plus largement que les salariés, parce qu'on change dans sa vie de statut, donc il faut être couvert tout le temps par le filet de sécurité. Une baisse des charges sociales salariales, là au 1er janvier, qui va ramener du pouvoir d'achat, et une réforme de retraite que ma collègue Agnès Buzyn portera.
Donc c'est un ensemble pour nous ramener au travail, c'est ça?
Non, l'ensemble pour à la fois libérer de l'espace, de l'énergie pour créer des emplois, mais aussi apporter des sécurités qui correspondent au monde d'aujourd'hui et de demain et pas d'hier. Le monde a changé.
Est-ce qu'il ne faut pas des commandes tout simplement pour une entreprise avant d'avoir des questions de réforme du code du travail avec lequel on vit finalement vaille que vaille depuis toujours?
Le premier sujet pour créer des emplois, c'est d'avoir des commandes. Ça, c'est pas notre boulot. Mais après, il faut un environnement du travail qui permet de s'adapter rapidement pour pouvoir saisir la commande. Il y a aujourd'hui des employeurs, il y a une reprise, il y a de la croissance, qui disent « ça y est, j'ai les marchés, mais les temps de réorganisation sont trop longs parce qu'on ne me laisse pas travailler avec mes propres syndicats suffisamment pour le faire ». Donc j'ai besoin de me réorganiser vite pour pouvoir prendre les commandes. Et aussi, je ne trouve pas les compétences. Alors, d'un côté, on a des chômeurs, de l'autre, on a des entreprises qui ne trouvent pas les compétences. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que ça veut dire qu'il y a des emplois qu'on ne crée pas aujourd'hui faute de compétences. Et ça, on ne peut pas l'accepter.
Merci Franck de nous avoir appelés. Et bonjour Bernard. Je vais vous demander, vous êtes nombreux à vouloir débattre avec Madame la Ministre, je vais vous demander d'essayer d'être le plus concis possible dans votre question. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Monsieur.
Je suis Bernard, j'habite Le Mans, dans la Sarthe, et je suis, entre autres activités, je suis conseiller prud'homal dans le collège des salariés. Ma question porte sur votre réforme des indemnisations au conseil de prud'homme, et ma question est très directe. Comptez-vous très prochainement et très vite abandonner ce projet qui me paraît contraire au principe du droit en France, qui est que l'indemnisation, je veux parler des dommages d'intérêt et non pas des indemnités conventionnelles, je parle bien des dommages d'intérêt, se font en fonction d'un préjudice subi par un salarié. Et souvent, moi j'assiste, et ce n'est ni en fonction de l'ancienneté du salarié, ni en fonction de critères mathématiques, c'est que quand un salarié est licencié abusivement, il subit un préjudice, et parfois vous avez par exemple un salarié qui, au vu de charges familiales et toute autre charge personnelle, qui n'a que 2 ans d'ancienneté, subit un préjudice parfois plus important que celui qui a 30 ans d'ancienneté. Donc je veux dire par là que nous sommes une juridiction comme une autre, majeure, responsable, et nous agissons selon les faits et selon l'application du droit.
Vous avez très bien dessiné le tableau. Je me permets de vous interrompre, Bernard, pour que justement Muriel Péricot, pardonnez-moi, puisse vous répondre.
Alors, pour que vous êtes un expert, donc j'aurais juste m'assurer que tout le monde comprend bien que voilà, on ne touche pas.
Bernard est un expert, mais nous ne le sommes pas. Donc il l'explique très bien.
Oui. Mais donc pour que tout le monde sache, quand on est licencié, il y a des indemnités légales fixées par la loi et conventionnelles, ça veut dire fixées par accord de branche entre patronat et syndicat. Mmh. Ça, on n'y touche pas, c'est le socle. Donc les indemnités de licenciement ne changent pas. Après. Sur les 150 000 cas qui sont soumis au contentieux, donc au prud'homme, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des. Si le salarié gagne à l'encontre de l'employeur, il bénéficie de dommages et intérêts. Hein. Donc, ce n'est pas les indemnités de licenciement, ce sont des dommages et intérêts.
Oui.
Et là, ce qu'on dit, c'est que, comme dans tous les pays, dans quasiment tous les pays du monde, il y a un plancher, un plafond, il y a un barème. Pourquoi? Parce que c'est aussi une question d'équité pour le salarié comme de sécurité pour l'employeur. Aujourd'hui, il arrive que pour le même préjudice, et monsieur a raison de parler de préjudice, la même ancienneté, le même type de poste, etc., les indemnités prud'homales, parce que d'un conseil de prud'homme à l'autre, comme il n'y a pas de repère, bah, ils jugent au mieux de ce qu'ils peuvent. Ça peut aller du simple au triple.
Oui, ils peuvent apporter des réponses très différentes.
Donc, ce n'est pas vraiment équitable pour les salariés. Et pour les employeurs, notamment les TPE-PME, dont un autre auditeur parlait, c'est extraordinairement désécurisant de ne pas savoir, si vous voulez, dans n'importe quel domaine légal, vous savez, les pénalités. Donc, ça n'améliorera pas le fait qu'il paye, et que s'il y a une sanction, elle doit être radicale. Si l'employeur a mal fait, il sera sanctionné. Mais qu'il y ait des points de repère est nécessaire. Le seul domaine où, effectivement, on n'envisage pas du tout de le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les cas de discrimination et harcèlement. Parce que là, on est dans un autre registre qui atteint la personne.
Réponse que vous aviez apportée à Elisabeth Martichoux. Arnaud, bonjour.
Monsieur Calvi, bonjour. Madame la ministre, bonjour. Question sera très rapide. J'aimerais savoir votre sentiment sur les 35 heures.
La réalité des 35 heures des années après, c'est qu'il y a eu beaucoup d'assouplissements pour s'adapter aux réalités de terrain qui sont quand même assez variées. Aujourd'hui, je dirais, c'est un sujet qui ne mérite pas toute l'attention. Je pense qu'il y a un certain nombre d'adaptations qui ont permis de trouver un équilibre entre les droits des salariés et les nécessités d'organisation du temps des entreprises. Donc, je pense que aujourd'hui, on le met pas, on l'a pas mis dans le projet de loi d'habilitation.
Voilà, vous ne voyez pas de nécessité de revenir sur les 35 heures.
Non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel, c'est pas les principes. Et aujourd'hui, le réel s'est beaucoup transformé. Il y a des exceptions de branche.
Parfois, faut transformer les principes pour améliorer le réel.
C'est
exactement ce que vous venez de nous expliquer concernant le code du travail. Hein.
Je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les 35 heures aujourd'hui, il y a beaucoup d'adaptations. Donc, en fait, il y a qui travaille, et puis il y a le système des heures supplémentaires qui permet d'adapter en fonction des besoins de l'entreprise. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, même les employeurs n'en font pas un point majeur aujourd'hui. Je pense qu'on a d'autres priorités, les compétences, la formation et libérer les énergies. Ça me paraît plus important que de revenir sur le sujet des 35 heures.
Eh bien, pour libérer les énergies, nous allons vous libérer tout court. Merci beaucoup, Muriel Péricot, d'être venue dialoguer ce matin avec les auditeurs d'RTL. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Merci d'être venue nous voir.
Bonne journée.
Bonne journée.